C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, élection complémentaire dans Marie-Victorin. Et hier, on a appris que Éric Duhem avait choisi l'actrice comédienne Anne Casabonne comme candidate. Ça fait pas mal jaser depuis hier. Alors, c'est une bonne décision? Est-ce que c'est une bonne candidate? Parce qu'elle a des chances d'être élue. Nathalie.
Ben, ça va prendre un miracle, Paul, et je doute que ce miracle se produise dans le comté de Marie-Victorin pour le Parti conservateur du Québec, essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Devoir a publié un sondage le 13 décembre dernier qui place Pierre Nantel, le candidat du Parti québécois, dans les intentions de vote, là, en tête de priorité, c'est-à-dire en haut de la liste, 33 % d'intentions de vote pour lui s'il y avait une élection demain, et pour la CAQ, 18 % L'autre chose, les projections de Québec 120 pense que, en fait, prévoit que le comté de Marie-Victorin pourrait être un comté pivot, c'est-à-dire qu'il pourrait pivoter soit vers la CAQ ou encore vers QS, confirmant 5 % d'intention de vote pour le Parti conservateur du Québec. Et à la fin, j'ai envie de te dire, l'autre raison, Paul, c'est sur le discours, en fait, le discours privilégié, véhiculé par le Parti conservateur du Québec est trop à la marge pour aller chercher, pour convaincre une majorité d'électeurs.
Luc. Bien d'accord avec toi, mais ça va dépendre beaucoup de la pandémie, parce que comme c'est un vote d'opposition à la pandémie que Mme Casabonne représente, si en novembre on retourne vers une vague de confinement, parce que c'est souvent en novembre que ça arrive, son vote pourrait exploser. Si au contraire la pandémie est réglée, son vote va s'effondrer, parce que c'est un vote unidimensionnel. Elle a un discours unidimensionnel, du moins pour l'instant, et elle s'est fait connaître pour ça. Et moi, je lui souhaite le pire résultat possible. Je déteste cette femme, comme je déteste son chef. Je les déteste parce que ce sont des destructeurs de démocratie. Ce sont des gens qui, par leur discours, sapent la solidarité, sapent le peu de confiance qu'on peut avoir en l'État quand on en a, en faisant des déclarations extraordinairement mensongères. Et en les cachant derrière, des fois, des déclarations beaucoup plus douces, beaucoup plus chargées de sens, de bon sens, mais néanmoins, ça commence toujours par des déclarations mensongères. On l'a vu, Mme Casabonne, dans le cas du virus, là, j'y reviendrai si tu veux, mais en gros, on est d'accord pour dire, s'il y a pandémie, peut-être qu'ils vont dépasser le 15 % et donc, ils vont aller chercher les subventions de l'État, parce qu'à partir de 15 % tu te fais rembourser 50 % de tes dépenses. S'il n'y a pas pandémie, ils vont aller dans la zone du 5 % et c'est ce que je leur souhaite.
Des destructeurs de démocratie, Luc, tu y vas très, très fort ce matin. En fait, le propre de la démocratie, la nature, l'essence même de la démocratie, c'est de permettre à un plus grand nombre de personnes de s'exprimer, un plus grand nombre d'opinions, de points de vue de s'exprimer. Je pense que le discours d'Éric Duhem, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, mérite d'être entendu.
Oh, pas du tout. Alors,
désolée de te fâcher ce matin, mais je persiste et signe parce que on peut être en accord ou en désaccord, mais n'empêche que le seul message que porte Éric Duhem, qui peut effectivement causer préjudice, comme tu le dis, à notre société, parce que manquant de solidarité, c'est quand même un discours qui a un écho chez une partie de notre population.
On va regarder les faits, c'est pas des opinions, là, ce sont des faits. Un des messages d'Éric Duhem a été retiré par YouTube. Pas par l'Association communiste de Hochelaga-Maisonneuve, là, par YouTube. Et les vidéos, la participation à télévisuelle à une publicité de Mme Casabonne a été retirée par Walmart. Pas par l'Association communiste du plateau Mont-Royal, là, par Walmart. Regardons les faits. Éric Duhem a reçu en entrevue une personne qui s'appelle André Lejeune. Ils avaient une discussion conviviale dans laquelle ils sont arrivés à la conclusion que il fallait inviter les aînés à ne pas avoir peur, à reprendre une vie normale. Il leur disait, il faut respecter la liberté de tous, le choix ou non de se faire vacciner. Qui sont les victimes de la pandémie? Les aînés. Il les envoyait à l'abattoir. Il les envoyait aux soins intensifs. Avec une impression de simplement discuter de son opinion. Mais son opinion, elle va contre des faits avéré dans les hôpitaux, les gens qui meurent, ce sont personnes... Attends, je vais juste terminer là-dessus.
Ouais.
Ce sont les personnes âgées. Mme Casabonne, pareil. Quand Mme Casabonne dit « le vaccin, c'est de la marde », attends, puis elle ne fait pas juste dire « le vaccin, c'est de la marde », c'est une grosse marde. Une marde qui divise les gens entre vax et non-vax. Une marde qui empêche ceux qui n'ont pas pris la marde en question d'avoir un gagne-pain. Bref, c'est une marde de chez marde. Quand elle dit ça, puis après ça, dans la phrase suivante, quand ça fait son affaire, puis quand il apprend le micro devant un public un peu plus divers, avec des médias, etc., là, quand elle dit « Ben moi, je suis pas contre le vaccin. » Hey!
Luc, tu ne peux pas te faire tu ne peux pas te faire le promoteur de la censure. Oublie les idées 3 secondes écart, là. OK, on a un président américain là qui a foutu le trouble aux États-Unis, mais qui est quand même devenu président américain. C'est un scandale, c'est épouvantable. Combien on est nombreux à le décrier, c'est une menace à la démocratie. Mais justement, la démocratie est ce qu'elle est, Luc.
D'accord.
Et j'ai confiance aux électeurs à faire la part des choses. On ne peut pas, dans le fond, on peut porter un jugement sur les idées d'Éric Duhaime et du Parti conservateur du Québec. Ce matin, j'entendais Anne Cazabonne à ton micro, Paul, nuancer ses propos par rapport au vaccin en disant que finalement, le vaccin, c'est pas de la merde, c'est une satire qu'elle a fait. Hier, j'entendais parler, comparer le passeport vaccinal à une patente à gosse. Elle traite François Legault et le docteur Arruda et Christian Dubé de clowns en parlant des comptables. C'est épouvantable, évidemment, ce genre d'idées qui sont véhiculées. Elle parle de mesures liberticides en parlant des mesures sanitaires. Évidemment, ça nous choque, mais ça provoque le débat.
Non,
et c'est ce
non.
Qui...
Attends, oui. C'est là que je suis pas d'accord. Parce que moi, j'appelle pas à la censure. J'ai commencé à en dire, je lui souhaite que les électeurs la boudent. Je ne souhaite pas que l'État intervienne puis l'empêche de se prononcer, là. Je lui souhaite que les électeurs la boudent. Pourquoi? Parce que quand tu dis débat, parlons de débat, d'accord? Lorsque Mme Cazabonne dit, à l'Assemblée nationale, c'est 125 François Legault, OK? Pour dire, tout le monde pense la même chose à l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui suit pas l'Assemblée nationale pourrait peut-être donner du crédit à ça. Puis elle le dit en conférence de presse, là. Mais il y a 124 personnes qui se lèvent tous les matins pour faire leur travail. Il y en a qui se lèvent à 5 heures du matin, là. Les Yvon Massé, Gabriel Nabeau-Dubois, Dorion, Anglade, Risky, qui font tout ce qu'ils peuvent humainement faire pour dénoncer ce gouvernement-là. Sur un ensemble de débats, sur l'aide à mourir, sur la déforestation, sur l'environnement, sur le troisième lien, sur la crise du logement, sur la pénurie en santé. Ils travaillent fort à faire ça. Puis là, t'as Mme Cazabonne qui arrive en disant « c'est tout de la même affaire, c'est de la merde ». 125 François Legault. Ce qu'elle fait, elle, c'est elle qui réduit la démocratie. C'est elle qui dit aux gens, vous savez, là, vos petites inquiétudes, là, vos petites analyses personnelles là, qui sont pas allées plus loin que la lecture d'un paragraphe du parti, là, ben c'est ça la vérité. C'est ça le gros bon sens. Le reste, là, on vous ment, on vous triche. Mais cette personne-là, elle détruit la démocratie dans le sens où elle ratatisse les faits pour qu'ils correspondent à ses inquiétudes, à ses craintes qu'elle répand dans la population. C'est en ce sens-là que je dis qu'elle ratatisse la démocratie.
Oui, bien c'est sûr. OK, dans ce sens-là, effectivement, mais on ne peut pas s'ériger en censeur puis dire finalement qu'Éric Duhaime ne peut pas se présenter aux élections, ne peut pas présenter de candidat et candidate. Il a récolté 37 000 membres aujourd'hui qui ont décidé d'embrasser les idées du Parti conservateur du Québec. Il a récolté plus de 1,5 million de dollars. Moi, je pense, Luc, que, évidemment, ça ne collera pas ce discours-là plus qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est extrêmement polarisant. On vit dans un monde où on a besoin, dans ce contexte pandémique, d'un peu plus de sérénité, de paix et de solidarité. N'empêche, qu'on le veuille ou non, il y a des gens pour qui ça a un écho. Il y a des gens, parce qu'on dit souvent qu'une élection partielle, c'est une espèce de référendum sur le gouvernement. C'est une façon de dire au gouvernement, on est satisfait ou insatisfait de votre travail. Il y a beaucoup de gens dans Marie-Victorin, beaucoup, enfin, on verra, mais il y a des gens dans Marie-Victorin, des électeurs qui vont dire, ah, ben moi, je suis d'accord avec ce qu'a fait la CAQ. Au contraire, pour moi, c'est une façon de leur signifier mon mécontentement. Mais, je le répète, le discours véhiculé par Éric Duhaime et par celui de Anne Cazabonne et de tous ses candidats et candidates dans le futur, est un discours qui est beaucoup trop à la marge pour convaincre une majorité d'électeurs qu'ils sont une alternative crédible, soit dans l'opposition officielle, par exemple dans l'opposition officielle, qui devienne une alternative crédible. Est-ce qu'Éric Duhaime ferait élire un comté, deux comtés, par exemple, dans la région de Québec à la prochaine élection? On ne le sait pas, mais moi, je dis pas que c'est impossible, mais il y a quand même quelque chose qui se passe, Luc, c'est que As-tu vu le dernier Main Street? 13% d'intention de vote. Au Québec, là, les intentions de vote sont surpassées par le Parti conservateur versus le Parti québécois. Le Parti québécois est à 10 % au Québec, j'entends, et le Parti conservateur 13 % Il y a quelque chose, je parle pas d'un phénomène, d'un mouvement de société, mais on ne peut pas exclure cette espèce de mouvement de populistes très à la droite. Le Québec est pas, vit pas dans une bulle, là. On n'est pas imperméable à ce qui se passe au sud de la frontière et ailleurs sur la planète.
Ben rapidement, le problème, c'est pas qu'il s'exprime. Le problème, c'est qu'il sape, comme je disais tantôt. Et un exemple précis, c'est la question de la science. Lorsque Mme Casabonne dit la science, c'est de douter. On a le droit au doute. Et que on doit remettre les choses en perspective, mais c'est pas vrai. La science, ce n'est pas toujours de douter. La science, c'est que aussi de faire une preuve scientifique. C'est qu'une fois que la preuve scientifique a été faite par des milliers de médecins à travers le monde, par des centaines de centres de recherche à travers le monde, à des centaines d'universités. Toi, Mme Casabonne, dans ton sous-sol, tu décides, non, moi, je trouve que non, vois-tu, ça correspond pas à ce que moi, je pense, donc je doute. Ça, c'est pas de la science. Ça, c'est pas une attitude scientifique. Et de le communiquer, cette façon-là, de faire à la population, vos petits doutes sont plus importants que des milliers de chercheurs. C'est une forme d'égoïsme toxique qui mène dans un cul-de-sac. Il n'y a plus rien de possible. Tu peux dire demain matin, ça, c'est pas un crime, ça, c'est un crime. Ça, c'est pas de la science, ça, c'est de la science. Tu peux tout contredire sur cette base-là. Et c'est dans ce sens-là que ce message-là, moi, j'espère qu'il va rester à 0,6% ou à peu près au score qu'a obtenu Maxime Bernier, donc 1,6% dans son comté, ou à 5% à l'échelle nationale. C'est là qu'il devrait rester. Il devrait pas dépasser ça. Et moi, je suis persuadé que les électeurs sont tellement intelligents qu'ils vont réussir à déjouer ce message-là.
Là-dessus, je vous arrête.
Oui. L'intelligence des électeurs, je suis d'accord avec ça.
Parfait. On s'arrête là-dessus parce qu'on veut avoir du temps pour l'autre sujet. Au retour, on va parler de recyclage, le fameux centre de tri de la Chine qui, semble-t-il, a un pourcentage, un taux d'échec quand même élevé. Donc, des matières recyclables qui se ramassent au dépotoir.
La commission Normando-Ferrandaise.
On parle du centre, le nouveau centre de tri de la Chine, qui a, semble-t-il, des problèmes techniques qui font en sorte que, selon un estimé, c'est 5000 tonnes de matières recyclables qui se retrouvent au dépotoir. La Ville de Montréal nous dit que ça demeure un faible pourcentage, que c'est autour de peut-être 8 %, donc c'est mieux que rien, mais que, évidemment, il y a des problèmes qu'on va essayer de régler. Alors, est-ce que, la question qu'on pose ce matin, c'est un signe de la faillite du système de recyclage? Parlons de Montréal, puis parlons du Québec. Luc?
Complètement. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, quand je suis arrivé à la radio il y a 2 ans et demi, une de mes premières chroniques, j'avais dit, moi, je ne recycle plus. Tout le monde avait dit, ouais, quoi, un environnementaliste qui recycle plus, c'est quoi ça? J'avais dit... Et qui évite lui. Toujours est-il que j'étais passé à Tout le monde en parle, j'avais été interviewé à plein de journaux puis d'émissions qui parlent d'environnement, etc. J'avais des indices forts pour dire qu'il fallait arrêter ça. Premièrement, il y avait ce gars, ce bon, très excellent journaliste, Cambron Goulet, qui travaille pour le Journal de Montréal, qui s'était fait engager par une entreprise de recyclage et il avait témoigné de ce qui se passait dans cette entreprise de recyclage. En gros, les convoyeurs qui amènent les déchets sont tellement rapides qu'il n'y avait pas le temps de vraiment bien classer les papiers, l'aluminium, le plastique, etc. Si bien que les ballots comprenaient à peu près n'importe quoi. Puis après ça, avec des pinces, ils engageaient des gars, une fois les ballots faits, qui essayaient de retirer en surface des ballots, les plus gros morceaux qui n'étaient pas du papier pour que ça puisse passer aux douanes. Parce qu'on envoyait tout ça en Inde parce que la Chine refusait de les avoir et parce que nos papetières ici refusaient de les avoir. Fait qu'on envoyait ça en Inde. J'avais posé la question quand j'étais élu, mais il se passe quoi en Inde? Rendu là, puis personne n'était capable de répondre. Ah, on ne sait pas. Le bateau revient vide, en tout cas, mais on ne savait pas du tout. Puis le doute, c'est que ça puisse juste là-bas servir à de la combustion et à rien d'autre. Ensuite de ça, il y a eu toutes sortes d'autres doutes. Comme par exemple le plastique. On va commencer par le verre. Le verre, on se disait, le verre est recyclé à 95%. Quoi? Puis finalement, on s'est rendu compte que le verre servait juste à faire des couches de verre par-dessus, dans les dépotoirs, par-dessus des déchets pour empêcher les odeurs. Ça, on appelait ça du plastique. Il y avait le refus de la Chine que j'ai mentionné. Quand la Chine dit non, moi, j'en veux plus, tu te dis, ben, il y a des questions à se poser. Il y avait donc toutes sortes d'indices. Mais on m'a répondu, attends une minute, toi. Tu vas voir, on a des nouveaux centres qui vont régler le problème. Et le top du top, c'était le centre de la Chine. Fait que de voir hier dans le journal que le centre de la Chine n'est pas capable de recycler comme du monde, qu'il n'est pas capable de distinguer un sofa puis un bouchon de coke, je me suis dit, voilà la preuve.
Un sofa puis un bouchon de coke. Hein? Alors, ça va
alors,
ça va
mal. Alors, prends la balle au bon, Nathalie.
Non, mais honnêtement, Paul, sur ta question, est-ce que c'est la faillite d'un système? La tendance, en fait, c'est facile de répondre oui, parce que toi, Recyc Québec a 30 ans de vie d'existence. Lorsqu'on a créé Recyc Québec, c'était l'organisme qui allait permettre au Québec de faire le virage en matière de récupération de recyclage. Ça fait 30 ans qu'ils existent et 30 ans plus tard, on apprend qu'au Québec, il y a seulement la moitié du papier, du verre, du plastique qui sont recyclés. Les matières organiques, le fameux compost, là, on composte quoi? Il y a 27% des matières organiques qui sont transformées au Québec. Il y a ajouté à ça, la moitié des Québécois qui n'ont pas confiance en leur bac de recyclage. En fait, il y a la moitié qui pense que ce qu'on met dans le bac bleu n'est pas recyclé. Alors, il y a une crise de confiance, on peut dire ça comme ça, et Recyc Québec devrait se poser des questions sur son efficacité. Comment se fait-il qu'après 30 ans, le Québec n'est pas plus avancé en matière de récupération de ces matières recyclables, en fait, de ce qu'on envoyait dans il n'y a pas si longtemps dans nos dépotoirs, dans nos centres de tri? Comment se fait-il qu'on n'est pas capable de trouver des débouchés pour tout ça? Ça peut pas toujours être la faute de la Chine puis des pays étrangers, parce que chez qui on envoyait, comme Luc l'a si bien dit, nos cochonneries. Mais là, il y a clairement un problème de confiance de ce côté-là. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent pas quoi mettre dans le bac de recyclage. Et donc, il y a un travail d'éducation à faire. Mais Luc, d'affirmer que toi, tu as pris la décision de ne plus recycler, c'est peut-être un geste de contestation, mais en même temps, on s'entend que c'est pas ça la solution. Parce que plus on enfouit, plus ça nous coûte cher. Oui. Et créer une nouvelle cellule dans un centre d'enfouissement pour enfouir nos déchets, là, ça va aller toujours en augmentant. C'est pas ça la solution. Mais il y a un problème à la base. C'est Recyc Québec qui est incapable, avec toute l'expertise qu'on a développée au fil des années, de trouver des solutions durables de trouver des débouchés durables au Québec, entre autres, ou à l'étranger encore, mais plus au Québec, pour nos matières recyclables. Lévis, par exemple, est une ville qui est une des plus proactive au Québec. 100% des matières qui sont recyclées au Québec, à Lévis, c'est-à-dire sont envoyées dans les centres de tri, sont recyclées. Alors, c'est extraordinaire ce qu'ils réussissent à faire.
Mais ça veut dire que
c'est un modèle dont on pourrait s'inspirer.
Ça se fait ailleurs, donc, Luc, pourquoi ça se fait pas partout?
Oui.
Bien, parce qu'il y a trois problèmes. Alors, d'abord, je vais juste ouvrir une petite parenthèse avant de répondre à ta question, Paul, sur le fait que moi, je ne recycle plus. Dans les faits, je recycle quand même parce que le carton.
On n'y croyait pas.
Le carton est bien recyclé au Québec, mais le papier ne l'est pas. Le verre ne l'est pas, le plastique ne l'est pas. Alors, quand j'ai dit que je recyclais plus, c'est que, à part le carton, ça ne sert pas à grand-chose. C'est une supercherie, c'est du marketing. Et je suis comme Yves Duhaime là-dessus qui dit « Moi, je suis vacciné, mais je suis moralement contre le vaccin. » Une autre de ses grandes déclarations.
Tu veux dire Éric Duhaime.
Éric Duhaime, oui, excuse-moi. Ouais. Éric, ouais. Donc, le problème, trois problèmes. Premièrement, le volume. Est-ce qu'on comprend? C'est pas de la science, vous allez voir, c'est pas de la technique, c'est du gros bon sens avec des images, on comprend tout. Le volume. Tu as des camions, c'est 10 à 12 tonnes là, qui te reculent, puis te déposent ça sur un convoyeur à un rythme effarant. Là. Quand un camion part, un autre arrive. Fait que là, tu as 12 tonnes de matériaux qui arrivent sur les convoyeurs. C'est tout mélangé. Là-dedans, tu as n'importe quoi parce que pas de discipline à la source. Les citoyens mettent n'importe quoi dans... Pas tous les citoyens, mais pourcentage suffisamment important de citoyens mettent n'importe quoi pour que tu sois vraiment tout mélangé. Tu sais, c'est bien difficile. Il y en a qui mettent des post-it là-dedans, puis c'est minuscule. Puis à côté de ça, t'as du plastique, mais t'as aussi plein de choses mélangées.
Des carcasses de chevreuil, Luc, des carcasses de chevreuil dans le bac de recyclage.
Des couches, puis toutes sortes d'affaires qui vont pas dans le recyclage, comme des jouets en plastique brisés, les astres en plastique, j'ai le mot recyclage. Non, ça marche pas. Mais toujours est-il que même si c'était bien classé, il y a plein de produits qui eux-mêmes sont mélangés à la source. Par exemple, un plat à tarte, un récipient pour mettre une tarte dedans, un carton, là. Tu sais, il y a une vitre en plastique dessus pour que tu puisses voir quel type de tarte tu achètes. Mais ça, c'est un mélange plastique-carton. Tu peux pas, à la base, tu peux pas recycler ça. Un mélange de toutes les couleurs, par exemple dans le plastique, c'est très difficile après ça de les distinguer. On a vu aussi que dans le centre de Rikova, il y a tous les plastiques fins, les films, ils ont beau être capables de les identifier puis de les mettre en ballot, ça se vend pas. Fait qu'il y a aussi la question des débouchés. Puis après ça, t'as des choses qui sont du polystyrène, t'as des pots de confiture à moitié remplis, t'as des assiettes d'aluminium qui sont mélangées avec du carton au pourtour. T'as toutes sortes d'affaires que si à la base tu l'as pas à mieux classé, trié, interdit, tu vas pas pouvoir le recycler en bout de ligne. Puis il y a une illusion consumériste à dire on va tout pouvoir recycler. Puis excuse-moi, j'ai pris trop de temps là, Nathalie, je vais revenir.
Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant ton illusion consumériste comme tu l'appelles, parce que c'est vrai qu'on ne pourra pas tout recycler. Puis c'est pas vrai qu'il y a des débouchés pour tous les produits qu'on envoie au centre de tri. Par contre, je pense qu'on pourrait faire un effort additionnel, par exemple pour nos matières organiques. Il y a juste la moitié des municipalités au Québec qui offrent ce service de pouvoir composter. Mais en fait, l'objectif, c'est de réduire au maximum ce que tu mets dans ton sac poubelle pour réduire la pression en bout de ligne sur ton centre de tri. Parce que le centre de tri, tout ce que tu envoies au centre de tri, ça se traduit sur ton compte de taxes. Parce que c'est une roue qui tourne.
Moi, je veux bien, là, mais tu sais, la période des fêtes se termine. Là, j'ai fait des achats en ligne. Écoute, je suis assommé à chaque fois que je reçois un paquet parce que déborde de carton. C'est du carton par-dessus du carton dans du plastique.
De la mousse.
Oui, de la mousse. Bon. Merci à tous les deux.
Foam.
Oui, on vous retrouve demain, bien sûr.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.